RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, 21e saison des GG en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. N'oubliez pas que vendredi prochain, ça peut être votre jour de chance. Vendredi prochain, on vous fait gagner jusqu'à 30 000 euros. On fait tourner une roue. Dans toutes les cases, il y a de l'argent à gagner. En plus, c'est exonéré d'impôts parce que c'est du gain de jeu. Et si vous voulez gagner jusqu'à 30 000 euros, vous vous inscrivez. Pour vous inscrire, vous m'envoyez dès maintenant, dès aujourd'hui, 13 par SMS au 7 32 16. 13 en chiffres ou en lettres par SMS au 7 32 16. Vous vous inscrivez, vous êtes tiré au sort et vous tentez votre chance. Vendredi, à vous de jouer, à vous de gagner. Nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Karine Lemarchand, bonjour.
Bonjour.
Les nouveaux Français sans temps d'immigration, produit et présenté par vous-même, c'est ce soir à 21h10. Sur M6, oui. On va en parler avec Bruno Poncet, le cheminot, Joël Dagosséry, la coach de vie, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Mais on va tout de suite en regarder un extrait pour voir de quoi il s'agit, avec l'exemple d'une médecin algérienne, enfin d'origine algérienne, qui exerce en Seine-Saint-Denis.
Comme beaucoup d'immigrés qui ont travaillé dur en arrivant en France sans aucune reconnaissance, le père de Sheila a exigé de ses 5 filles une assiduité dans les études, le prix de son sacrifice.
Il nous disait systématiquement à nous tous, hein, je n'ai pas quitté l'Algérie, je n'ai pas quitté ma famille, le pays que j'aime, qui est profondément ancré en moi, pour que mes enfants, une fois qu'ils soient nés en France, ne réussissent pas. C'est hors de question. Et je me rappellerai toujours du jour où j'ai eu mes résultats de concours et que je l'ai appris à mon père. Il revenait du travail, je lui dis « Papa, j'ai eu mon concours, je vais être médecin ». C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Ça valait le coup. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça valait le coup. J'ai le résultat de toutes mes années de galère. Je ne me suis pas réveillée à 5h du matin pour aller faire du bâtiment, pour rien.
Karine Lemarchand, si on devait résumer ce documentaire, on pourrait dire l'immigration est une chance pour la France.
L'immigration est une... Oui, la France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu des émigrés, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a un deuxième message... qui est que la plupart des gens qui viennent d'autres pays remercient la France aussi pour son accueil et ne sont pas forcément ce n'est pas d'eux dont on parle la plupart du temps en fait dans les émissions de télé.
Oui, parce que le documentaire, l'angle du documentaire, c'est de dire voilà, il y a des gens qui sont arrivés en France parfois dans des conditions très difficiles et puis se sont devenus ensuite ces personnalités des parcours de réussite.
Oui, on a volontairement
Donc ça se veut très positif.
Bah oui, mais 20 millions des Français ont un grand-parent étranger. 13 millions un parent direct. Donc en fait la plupart des gens viennent d'autres. Si on regarde nos noms de famille, je pense que à une ou deux générations. Vous venez d'où vous par exemple?
Moi je viens de Vierzon et mon nom de famille c'est Poncet.
Vous c'est français?
Ah ouais, je crois.
Ouais, voilà, mais je sais pas tous si vous avez pas des aussi, je pense que vous avez des parents un peu étrangers aussi.
Mais la plupart des Français, en fait, c'est parti de votre propre histoire, c'est votre histoire qui vous a donné envie de travailler sur ce documentaire.
Non, c'est M6 qui me l'a demandé, qui m'a dit on cherche depuis des années à faire un documentaire sur l'immigration, mais qui soit sociétal et en même temps qui ait un peu notre ADN. Et donc j'ai réfléchi, moi ce que j'aime c'est l'humain. Mmh. Et donc on a travaillé avec des historiens, on a regardé tous les flux migratoires depuis 100 ans, on a regardé toutes les politiques françaises qui nous ont conduites aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Et on a choisi donc après des personnes qui pouvaient l'illustrer. Mais effectivement des gens qui s'étaient complètement intégrés parce que quand nos grands-parents venaient en France, leur principale priorité, c'était que leurs enfants s'intègrent le plus vite possible en leur donnant des noms français, des prénoms français, en leur interdisant de parler autre chose que français à la maison et en les obligeant à réussir socialement.
Mais je parlais de vous parce que vous-même, au début du documentaire, vous dites « Je ne serais pas là si la France n'avait pas accueilli mon père burundais quand il faisait ses études ».
Bien sûr, oui, il y a eu beaucoup.
Donc c'est un sujet qui vous touche personnellement.
qui me concerne. Après, c'est pas quelque chose qui m'obsède du matin jusqu'au soir, mais je fais partie de ces gens, oui, à qui on a demandé beaucoup quand j'étais petite. Tu te sens plus quoi, africaine ou française? Je comprenais même pas la question et je comprenais même pas pourquoi on me demandait de choisir. Mon identité, elle est multiple. Je suis effectivement née d'un père du Burundi. Je suis née en France. Je me sens profondément française. J'aime me promener dans les petits villages français. Pour autant, je ne nie pas l'origine de mon père. Quand je vais en Afrique, j'adore. Voilà. Mais je suis aussi femme. Je suis aussi chef d'entreprise. Je suis aussi maman. Mon identité ne se résume pas aux origines de mes parents.
Mais pourquoi aujourd'hui, on est plutôt dans des questions de réflexe identitaire, de communautarisme, et cette question-là est devenue une question très fracturante dans la société, mmh, avec des débats, avec souvent des invectives.
Mais parce que tout a changé, parce qu'effectivement, de mon temps, quand j'étais petite, moi je me souviens qu'à la cantine, il y avait du jambon, il y avait des musulmans, des juifs qui ne mangeaient pas de jambon, et donc du coup ils échangeaient le jambon contre le dessert, etc. Moi j'allais chez mes copains musulmans, la maman elle m'apprenait à faire du couscous, c'était pas du tout un sujet en fait d'exclusion ou de différenciation. Au contraire, c'était un enrichissement pour la petite gamine que j'étais qui n'avait pas les moyens en plus de voyager.
Oui, mais il y avait du racisme. Extrêmement... Il y avait aussi du racisme. Est-ce que vous...
Oui,
vous
mais
ils le disent d'ailleurs. Hein, tous les témoins le disent qu'ils ont vécu aussi ce racisme.
Je l'ai vécu aussi.
Oui.
Mais aussi la discrimination.
Est-ce que vous avez vécu que...
Non, mais d'accord, mais demander à un roux s'il n'a pas été traité de rouquin, si on n'a pas dit que ça puait, demander à une personne qui est grosse si on ne s'est pas moqué d'elle et si ça n'existe pas encore sur les réseaux sociaux. De toute façon, de façon individuelle, oui, on est tous victimes de cons, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai.
Alors,
mais moi, je suis la génération, touche pas à mon pote, où on avait tous le pins jaune, la grande marche des fiertés, etc. La grande marche, non pas du tout des fiertés, la grande marche de 1983. Voilà.
Alors, nos GG ont vu le documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé avant qu'on continue, bien sûr, d'en discuter? Qui se lance? Jean-Loup Bonamy?
Jean-Loup, il va peut-être parler d'autre chose, parce que Jean-Loup, quand même, il a quand même une marche en face de lui. Je pense que ça, on va avoir quand même 5 minutes de déclaration enflammée.
Ah
oui,
c'est de bon goût. Oui, pardon, mais oui.
C'est de bon goût.
Ah bon, d'accord.
Oui, oui. Vous avez un amoureux transi.
Ah,
oui.
Je savais pas.
C'est bien, c'est même malaisant.
Non, mais du coup,
c'est bien. Donc,
bravo, c'est français. Bruno est un mec très, très classe.
Ah, ben bah, les mecs de Vierzon, tu sais, ils sont connus. On les appelle les rois de la galanterie.
Si tu avais un parent immigré, tu serais un peu plus subtil.
Non, mais faut être cash.
Ceci dit, il devrait faire son test ADN. Ouais, je... Trop, vous croyez que vous êtes français, mais bon.
Mais moi, ça me dérangerait pas du tout d'avoir des origines étrangères, même bien au contraire. En fait, moi, j'ai pas du tout. Moi, je passe depuis que je suis gamin. Vous avez raison. Moi, je veux de génération. Moi, depuis que je suis gamin, touche pas mon poste. C'était bah, vraiment notre truc. Et moi, depuis que je suis gamin, et oui, comme vous, moi, j'ai été à la case du Ramadan. J'étais invité.
Bah, oui.
Quand c'était le samedi soir, on était invité chez nos amis juifs. Enfin, ça devait être comme ça. On n'avait même pas d'idée. Par contre, moi, quand j'ai vu votre documentaire, que je trouve factuellement quand j'ai vu votre documentaire, je me suis interrogé quand même sur votre autre émission, Une ambition intime, où vous recevez des politiques et certains disent, et dans leur programme, que l'immigration c'est un fléau, que l'immigration est la cause de tous nos problèmes. Et je vous imagine peut-être dans un an recevoir Retailleau, Bardella ou autre, et où Knafo ou Zemmour.
Ah mais je dis pas qu'il y a pas de problème, mais si vous regardez bien le documentaire, on voit bien qu'il y a des gros problèmes. Hein.
Mais non, mais je dis pas ça. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est entre les gens qui voient pas le problème, et malheureusement il y en a aujourd'hui,
y a un problème.
Et puis ceux qui voient que ça comme problème et qui oublient tout le reste, moi j'imagine que dans votre émission des fois ça vous doit vous heurter, mais pas uniquement parce que vous êtes quelqu'un issu de l'immigration, mais parce que à un moment donné, face à des gens qui disent tout son contraire, ça va être quand même compliqué, hein.
Mais c'est un des grands sujets de débat dans les foyers français, et il va falloir peut-être effectivement que...
Oui, vous niez pas qu'il y a pas y a un problème aujourd'hui.
Non, mais il y a un problème avec l'immigration, mais avec certaines personnes, pas avec 20 millions de personnes.
Alors, d'accord.
Joël Dagossiri.
Non mais c'est super parce que Karine Le Marchand, vous avez fait un documentaire vraiment très bien dans lequel je me suis enfin reconnue, parce que ça fait quand même des mois et des mois, voire des années, que quand on parle d'immigration, je ne me reconnais absolument pas dans la description qui est faite de l'immigration. Donc et là vous avez fait un documentaire super génial, et tout de suite, ah mais il y a un problème, ah mais il faut tout de suite revenir au ah mais vous niez pas qu'il y a un problème. Non, là le focus est sur déjà quelle est l'histoire de l'immigration, parce que ce qui est bien fait c'est que c'est chronologique, donc on comprend très bien les vagues migratoires, donc en commençant par les Espagnols, les Italiens, les Portugais, etc., en arrivant sur l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Donc c'est très bien fait, on comprend très bien. Première chose.
Les décisions politiques aussi. Et y compris le regroupement familial.
Le regroupement familial, tout à fait. On voit très bien d'où ça vient. Et la chose, c'est que c'est les portraits surtout. Alors, ce que vous savez très bien faire, c'est vraiment de faire ressortir des gens. Voilà. Au-delà d'une histoire, voilà, de l'immigrant, les gens. Et vous voyez, il y a plusieurs portraits. Donc, il y a cette jeune, elle est jeune, enfin, italienne, qui, donc, elle.
Céline Maury, oui.
Exactement.
Petite
alors, elle.
Italien.
Elle, c'est vraiment moi. C'est la double culture décomplexée. Décomplexée. On lui a demandé, est-ce que t'es plus italienne? Elle a dit, je m'en fiche. Bah, oui. Je suis les deux. Je fais pas. Alors que sa mère, c'était plus, ah non, il faut pas du tout, il faut gommer l'Italie, ouais, etc. Donc.
Mais parce qu'à l'époque aussi, on pouvait pas avoir les deux nationalités. Ouais. Fallait
oui,
choisir.
C'est ça.
Hein.
C'est ça. Et on a aussi Sheila, qui justement, où je dis,
la
témoin,
médecin, oui,
la médecin. Parce qu'en fait, ce qu'on sait pas, ce qu'on dit pas souvent, sur les descendants d'immigrés, entre guillemets, c'est, ce poids, entre guillemets, cette exigence qu'ont les parents, de voir leur voyage, je vais dire rentabiliser, je le dis comme ça, mais
leur sacrifice, leur sacrifice, donner du sens à leur sacrifice.
Exactement. Et on ne sait pas à quel point. En fait, moi, je dis souvent aux gens, je dis, moi, je suis en mission. Je suis en mission quelque part, ouais, parce qu'en fait, mes
pour
parents sont venus
parents
pour quelque chose. Ouais. Et je dis à ma fille, tu fais partie du projet. Je crois pas que ça s'arrête à moi. Tu fais partie du projet. Donc je lui dis souvent ça. Et je lui rappelle pourquoi, en fait, mes deux parents sont venus ici. Et ces deux parents du c'est côté ça, papa.
Et moi, quand je vois les émeutiers ou les petits cons ou les petits, ceux dont on parle le plus souvent dans les émissions de télévision, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte du sacrifice qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents? Ils se retournent dans leur tombe, c'est sûr. Et
pourquoi petit con alors?
Non, quand on parle.
Oui, ouais. Non, mais bien sûr, mais
bah parce que c'est des gens qui vont pas respecter.
Et
en
pourquoi
fait,
ils n'ont pas cette conscience, selon vous?
Parce que c'est des petits cons.
Non, mais d'abord parce que c'est des petits cons, parce que.
Pourquoi il y a la rupture justement générationnelle?
Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner. Ils donnent pas de sens à leur vie. Ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires.
Mais vous dites ils sont très victimaires.
Ah moi je trouve qu'ils sont très, ils se sentent très victimes d'une société.
Ce qui n'est pas le cas.
Ils disent toujours que c'est pas de leur faute.
Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi?
Oui mais bien sûr. Non mais il y a plein de choses qui sont à l'origine.
Parce
de
que ce qu'on comprend pas, c'est que ces jeunes qui sont nés en France.
Mais ils sont français, donc ils n'ont pas les mêmes revendications que les enfants migrants.
Ils ont été à l'école, etc. Et ils n'ont pas la même revendication.
Ils n'ont que des droits, ils n'ont pas d'obligations en fait. C'est ça le problème.
Non, mais je pense qu'après, il y a une génération de parents qui a aussi changé. Moi, quand je vous dis que je dis à ma fille, tu fais partie du projet, je suis pas sûre que tous les parents de ma génération, nés en France, puissent faire la même chose. Il y en a beaucoup qui le font, mais peut-être qu'il y en a qui le font moins, j'en sais rien. Mais moi, j'ai une petite question, je peux revenir aussi un peu à ce qu'a dit Bruno, pas exactement la même, mais dans le reportage, il y a cette partie sur la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette partie, vous expliquez que donc, lors du débarquement, les troupes militaires étaient composées à 80%
des indigènes,
ouais, donc des gens de l'empire colonial,
oui,
et que d'ailleurs beaucoup avaient été faits prisonniers par les Allemands, d'accord, et donc sont morts. Et vous avez à côté effectivement des politiques qui vous expliquent matin et soir que l'immigration n'est pas une chance pour la France, alors que tout ce que votre documentaire montre, c'est que la France a choisi, c'est-à-dire qu'elle a organisé l'immigration
sans consultation démocratique.
J'ai pas dit.
Il y a pas de référendum.
Mais je veux dire aller chercher des personnes pour reconstruire la France, aller chercher des personnes pour faire la guerre. Et il y a une partie que vous avez pas mis parce que je pense que c'est pas vrai, c'est pas de l'immigration, c'est le bumidome qui concerne plus.
Bah, ils sont français.
Ouais, mais
tout comme
voilà,
j'ai pas fait des pieds noirs.
Oui, bien sûr. Mais ouais, je veux dire, ça aussi, ça a été organisé en fait. Le bumidome, c'est un bureau qui organisait la venue des personnes des Antilles. Donc en fait, il y a une organisation qui a quand même été mise en place. Et vous avez aujourd'hui des politiques qui nous expliquent un peu que c'est une sorte de qui subissent en fait, que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça n'a jamais été un choix et que c'est subi.
Bah c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire. Parfois c'est subi. On voit bien aussi qu'il y a des fois des volte-face, c'est-à-dire qu'au départ, quand l'Espagne sous Franco a généré des milliers, des dizaines de milliers de migrants aux frontières, on a commencé par les accueillir et puis tout d'un coup on s'est dit mais on peut plus les accueillir. Boum, on les a parqués dans des camps.
Ouais.
En fait, ça change tout le temps.
Argelès.
Notamment Argelès. Donc ça change tout le temps en fait. Oui, justement, en 100 ans, les politiques migratoires n'ont cessé d'évoluer.
Peut-être parce que justement on est passé de ce qui était à l'époque l'assimilation à aujourd'hui un mode plutôt communautariste, c'est peut-être ça qui a changé. Les nouveaux Français 100 ans d'immigration, c'est le doc de Karine Lemarchand, documentaire. Et il est ce soir sur M6 à partir de 21h10. On va continuer d'en discuter puisque Karine Lemarchand est notre invitée avec Bruno Poncet, avec Joël Dagosséry et avec Jean-Loup Bonamy. Reste avec nous, il est 11h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Avec aujourd'hui invité des GG Karine Lemarchand pour son documentaire qui passe ce soir sur M6, 100 ans d'immigration. C'est l'immigration positive qui montre à travers des personnalités, tiens, comme Gérard Hernandez, vous savez, Gérard Hernandez de Scène de ménage, le comédien. Voix off, ultra connu.
Il s'appelle Julio, en vrai.
Oui, Julio, c'est ce qu'il raconte dans ce documentaire, comment lui aussi, il a dû faire des efforts pour s'assimiler, être plus français que les Français.
On arrive à Saint-Ouen. Et là, à Saint-Ouen, on tombe sur une colonie espagnole. Il y avait des bidonvilles, des roulottes, les gitans. C'était un petit logement. Moi, je couche avec mon grand-père. C'était très restreint. C'était pas Versailles ici. C'était pas Versailles. J'en ai pas fait quand même pas mal. Mais j'étais différent. Je parlais pas bien le français. J'avais un accent épouvantable. Et bon, les moqueries, même à 5 ans, c'est dur. Puis 6 ans, 7 ans. À 7 ans, j'ai dit, nom de Dieu, je vais parler français aussi bien qu'eux.
Jean-Loup, bon ami.
Non mais monsieur alors, le professeur, j'ai vu votre documentaire en avant-première puisqu'on nous l'a envoyé et je l'ai beaucoup apprécié. Ce qui est à surprendre parce que il y a deux raisons qui auraient pu faire que je le critique. La première raison, c'est que régulièrement sur ce plateau, d'ailleurs encore aujourd'hui, je souligne qu'il y a quand même un problème avec l'immigration, même si bien sûr, c'est ce que montre votre documentaire, ce n'est pas tous les immigrés, mais il y a des problèmes. D'ailleurs, bien votre sûr. Documentaire le dit aussi. Donc, moi, je mets souvent le doigt sur ces problèmes, encore ce matin. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, mais excusez-moi de vous le dire, mais c'est parce que il y a deux ans, on avait parlé de vous quand vous étiez allé soutenir, et je vous en félicite, les agriculteurs. Mmh. Et à l'époque, poussé dans mes retranchements par Alain Marchal, j'avais été obligé, mais vraiment poussé par Alain, part de mon admiration pour Karine Lemarchand. J'avais dit que vous étiez l'une des plus, à la fois des plus talentueuses et des plus belles présentatrices de l'histoire de la télévision française. Et j'avais dit également que vos émissions politiques, même si ce n'est pas votre spécialité, étaient de meilleure qualité et plus intéressantes politiquement que celles de beaucoup de soi-disant journalistes politiques professionnels qui nous ennuient. Et je crois même, toujours poussé par Alain, que j'avais fait une demande en mariage en public et vous m'avez méprisé.
J'ai pas su, maintenant.
Mais la tournée sur les réseaux et vous ne m'avez... Alors je m'attendais bien à essuyer un refus, je ne m'étais pas fait d'illusion, mais vous avez fait bien pire, vous m'avez méprisé. Et donc aujourd'hui, je devrais me venger en descendant en flèche votre documentaire. Mais comme il est excellent, je vais faire preuve de grandeur d'âme et justement reconnaître l'excellence de votre documentaire.
Mais qu'auriez-vous pensé de moi si j'avais accepté d'épouser quelqu'un que je ne connais pas ?
Exactement.
J'aurais trouvé ça très bien. Si c'est moi, autrement.
Alors, retour sur le doc.
Et donc, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que justement, ça apporte une vision nuancée qui permet de mieux connaître la société française parce que l'immigration, qu'on s'en réjouisse ou que, comme moi, on le déplore, a changé en profondeur la société française. Et je trouve que c'est très bien de savoir dans quelle société on vit et de le savoir aussi avec ce qu'on appellerait dans les études de sondage des études qualitatives, c'est-à-dire vraiment des gens qui témoignent et qui racontent des parcours. Et donc, j'ai trouvé ça très bien. Justement, en fait, il faut avoir une vision globale et nuancée. C'est un exemple que je prends.
Ta question, Jean-Loup.
Alors, ma question, c'est que quand même, je pense que vous êtes passé quand même à côté d'un petit phénomène de la société française qui est, vous en parliez, vous êtes de la génération Touche pas à mon pote et vous avez, il y a quand même toute une remontée identitaire.
Non, on en parle avec le rap.
Avec le rap, il y a beaucoup de choses sur l'islamisme, par exemple, qui sont un peu, on a quand même l'impression, avec des témoignages de Français d'aujourd'hui, mais d'être quand même toujours, d'être dans une ambiance très années 80 et d'être passé, c'est-à-dire, il y a une remontée, il y a aussi une remontée du communautarisme, on le sait aussi, dans les milieux juifs,
la vie communautariste extrême. C'est ce qui aujourd'hui pose problème. Mais vous l'évoquez. Oui.
Voilà, vous l'évoquez, mais on a l'impression que tout ça est très marginal.
C'est dommage.
La France de 1998.
Réponse de Karine Lemarchand.
Pourquoi l'immigration doit-elle être à chaque fois ramenée à l'islamisme?
Exactement. Parce qu'il y a un vrai problème.
Mais il y a des problèmes avec des délinquants. Oui. Il y a des problèmes avec des gens radicaux et des délinquants.
Ah. Mais c'est pas que des délinquants. Moi, par exemple, je connais des jeunes filles ou des jeunes garçons musulmans très sympathiques, mais qui, par exemple, vous parliez du rap, n'écoutent pas de musique parce qu'ils considèrent que c'est interdit par la religion.
Mais ça, c'est leur problème.
Oui, mais enfin, ça pose quand même un problème d'intégration à la société française. C'est un écart.
Alors, pas la musique.
C'est quand vous en a ou qui refusent par exemple, dans les cours d'art plastique, ce qu'ils disent dessiner, c'est interdit par la religion. C'est un vrai problème qui se pose dans les établissements scolaires, par exemple.
C'est autre chose. Mais c'est combien de pourcentage de la population française dont on parle?
Un petit pourcentage, mais de plus en plus important chaque année.
Je pense qu'il y a des vrais problèmes. Et je pense que l'immigration est un problème dont on va devoir s'emparer, et notamment à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est certain. Et voilà. Mais par ailleurs, je pense que si on devait numérairement dénombrer les gens qui posent problème, ils seraient comme les trains qui arrivent. Non, les trains, c'est souvent qu'ils n'arrivent pas à l'heure.
Madame Le Marchand, quel monde nous sont les trains.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des fils d'émigrés, des jeunes émigrés ou des petits-fils d'émigrés, ne posent pas de problème à la société française. Ceux qui posent des problèmes, en général, ils sont français. Fort du fait qu'ils soient français, ils revendiquent des choses et on ne peut d'ailleurs pas forcément.
En tout cas, bravo pour votre documentaire. Ce que montre le documentaire, c'est qu'effectivement, on est passé de ce qu'on appelait l'assimilation aujourd'hui à vivre à côté. C'est-à-dire qu'on tous, je trouve que tous ces témoignages, Gérard Nandez aux autres, ils disent à peu près la même chose. Ouais. On a eu des prénoms français pour devenir français. Ouais. On a vite appris à parler français, etc. Aujourd'hui, au contraire, c'est chacun doit garder son identité avant tout, revendiquer son identité.
Ses origines.
Et tant pis si on vit pas ensemble, on vit à côté. Alors c'est un modèle anglo-saxon, hein, où chaque communauté.
Mais c'est surtout une identité très restreinte.
Oui, mais c'est ça qui, à mon avis, heurte beaucoup de Français. C'est un changement de modèle. Notre modèle n'était pas celui-là.
Mais
notre modèle est un modèle d'assimilation.
Universaliste. Oui.
Mais parce qu'ils se sentent obligés de choisir. C'est-à-dire qu'ils sont souvent nés en France, ce qui pose problème, mais ils revendiquent finalement un passé qui ne leur appartient pas. Ouais. Ils se réfugient dans un petit bout d'identité et psychologiquement, c'est très restrictif. Imaginez ce mal-être. Moi, c'est comme si je... Alors, tout ce que je fais, c'est sous le prisme de la négritude. Alors, je vais manger par rapport aux origines de mes parents, je vais me présenter aux autres, etc. Je ne vais voir en moi que la partie noire, mais c'est horrible.
Oui, mais aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a une affirmation identitaire aujourd'hui de la part. Il y a un courant de pensée. Bah,
une affirmation, mais de
genre. Qui arrive des États-Unis qui a infiltré la France.
Bah, ça, on en a parlé dans les années. Non, on en a parlé dans les années 90, pas du tout. Non, j'en parle vraiment. Mais ça a été aussi nourri. Je veux dire, il y a beaucoup d'associations qui vivent aussi des aides et qui ont tout intérêt à ce que ça continue. Tous les réseaux sociaux aussi fonctionnent grâce à l'identitarisme de ces gens-là qui ne sont pas grand-chose.
Regardez du côté de la France insoumise, on revendique cette créolisation, ces communautés
même aujourd'hui. Parce qu'ils veulent rattraper des voix, ils veulent avoir des voix.
Mais ça trouve un écho dans la société.
Ça trouve un écho parce que il y a aussi.
Vous le regrettez
mais
du coup
parce
alors.
Que les échos que vous avez sur les réseaux sociaux sont les échos qui viennent aussi des extrêmes tout le temps. C'est les filles très très maigres qu'on va voir très squelettiques.
Oui, parce que comme votre documentaire il est positif.
Qu'est-ce que je veux dire?
Vous pouvez être critiqué justement par une partie de la gauche ou d'un courant qui va dire mais l'immigration c'est Karine, ce n'est pas ça ou ce n'est plus ça. Toi tu montres que des gens qui se sont assimilés et aujourd'hui ce n'est plus
ceux qui font le plus de bruit, ce sont les gens qui sont dans des extrêmes de communauté. C'est ça aussi. Quand je dis très très mec, c'est un exemple. Il y a des mouvements, il y a des trends. Et on va mettre en avant, et je pense que les réseaux vivent de ça. Si c'était que des gens classiques, nuancés, qui sont heureux dans leur pavillon avec leurs enfants et qui font le poulet du dimanche, ça ne marcherait pas. Donc en fait, il y a tout d'un coup des gens qui n'ont pas d'identité, qui s'en construisent une, qui prennent la parole avec des termes souvent très extrêmes. Et c'est là où on devrait légiférer aussi, mais bon là. Et ces gens-là, tout d'un coup, ont une existence.
En fait, on parlait de la majorité silencieuse.
Ce qu'on voit aussi dans ce documentaire, c'est que c'est le travail qui permet aussi de l'intégration. C'est aussi quand même l'histoire de l'immigration. C'est des vagues d'immigrés qu'on a fait venir d'ailleurs la plupart du temps parce qu'on avait besoin de reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait accompagner les Trente Glorieuses et que le travail, c'est quand même le meilleur facteur d'intégration.
Mais c'est-à-dire qu'au départ, ils venaient que pour ça. Ils étaient censés repartir.
Et après,
quand ils sont venus. c'était alimentaire. Ils envoyaient l'argent au pays et voilà. Et ils avaient envie de repartir. Et puis avec le temps, ils sont pas repartis. Et quand on a fait le regroupement familial, on a vu effectivement des centaines de milliers de personnes qui parlaient pas français, qui avaient pas eu la qui venaient de façon. Vous le voyez avec la mère de Boudère. Sa maman, elle savait pas lire, savait pas écrire. Elle mettait un nombre de dates dans ses poches pour compter le nombre de stations de métro avant de descendre à l'hôpital pour faire soigner son fils. C'est-à-dire qu'on a aussi projeté des gens sans exiger. Effectivement, qui parlent français, qui connaissent un minimum de la France ou qu'ils acceptent de la respecter.
C'est vrai.
Non, mais je pense que Karine Le Marchand, elle a là un échantillon de ce qu'elle va, à mon avis, subir à partir de ce soir. C'est-à-dire qu'on va lui reprocher de ne pas montrer la minorité. Voilà.
Et je m'en fous.
Dès que quelqu'un fait l'erreur de montrer la majorité de l'immigration, c'est-à-dire des gens qui vont au boulot le matin, dorment, qui se couchent, qui vont emmener leur enfant à l'école, etc., ça va pas. Donc, il faut absolument demander. Mais il y a pas du communautarisme, il y a pas de ça.
Ouais.
Vous cherchez la petite bête. Moi, par exemple, dans le reportage, il y a Céline Maury, justement, qui appelait sa fille Pia, par exemple. Et donc, qui est revenue avec un prénom très italien, très ancien, italien. Et ça, par exemple, on va dire que ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'assimiler,
on
va
la
certains vont dire ça parce que justement pourquoi est-ce que elle ses parents lui ont donné Céline et puis elle l'appelle Pia parce
mais moi ma fille s'appelle Alia mes deux racines juives et swahili j'en ai trouvé un
quand vous êtes enfant d'immigré et qu'il y a une sorte de déracinement parce que l'immigration pour les parents c'est une sorte de déracinement, vous avez aussi une petite volonté, une sorte de préservation, c'est-à-dire que ce voyage là où vos parents viennent ne se perdent pas complètement. Et ça n'est pas un manque d'assimilation ou un manque d'intégration.
Tout.
Absolument pas.
Ouais.
Deux questions télé. Tout d'abord, on va rentrer dans une période électorale, les municipales, ensuite la présidentielle. Vous avez prévu de refaire des émissions politiques un peu décalées en recevant des personnalités, parce que ça cartonne.
Alors pour la présidentielle, qui je vais faire de plus ?
Ah, tout le monde n'est pas en cossu, il y a les nouveaux candidats peut-être.
Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est.
Non. Ça va arriver.
Moi, j'ai un temps quand même incompressible de fabrication. Mais là, j'ai fait Marine Le Pen, Jordan Bardella, là, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait Fabien Roussel.
Il y a Raphaël Glucksmann. Là, vous n'êtes pas sûr de faire de l'audience avec Raphaël Glucksmann, quoi, en fait, c'est ça?
Non, c'est pas ça l'histoire. Non. C'est ce qui se présente.
Édouard Philippe, vous l'avez fait?
Non.
Vous avez jamais présenté David Isnard.
Ce que vous dites montre qu'on tourne sur les mêmes depuis un certain temps.
C'est surtout que moi, le temps de mon émission, il est assez incompréhensible.
Vous pouvez parier sur Edouard Philippe, allez-y. Glucksmann aussi, je pense.
J'en ai déjà parlé avec eux.
Et puis une deuxième question.
J'ai déjà croisé les deux d'ailleurs et je leur ai dit pourquoi pas. Ils m'ont dit pourquoi pas.
Deuxième question, Jean-Marc Morandini qui est maintenu à l'antenne sur CNews, ça vous choque ou pas?
Quel rapport? Pour quel rapport avec mon travail?
Parce que vous êtes animatrice télé, est-ce que...
J'ai pas envie de répondre à ça.
Non,
parce que quelle que soit ma réponse, de toute façon, ça va me retomber dessus.
Pourquoi vous avez pas envie de répondre?
Moi, je trouve que les téléspectateurs sont des gens qui sont très intelligents et que c'est à eux de faire des choix aussi, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de me prononcer sur le maintien ou pas de Jean-Marc Morandini à son antenne.
C'est aux téléspectateurs de choisir.
C'est tout spectateur de choisir, je pense.
Oui, arrête avec tes questions déplaisantes et revenons sur l'excellent documentaire que tout le monde va regarder ce soir.
Alors,
merci.
Justement, Bruno Poncet.
Moi, je voulais vous remercier parce que dedans, vous citez Bounaïmin, que je connaissais un peu et qui est décédé malheureusement trop tôt.
Ouais.
Et c'est important parce que ça fait partie des racismes en France, ou le racisme anti-asiatique, et qui passe crème parce que, rappelez-vous, pendant le Covid, les gens se pinçaient le nez à côté d'un asiatique. Il y a toujours ce truc à côté anti-chinois et tout, et on dit toujours que c'est tous des Chinois. Et Bounaïmin en parlait très bien, moi ça me faisait rire, et je trouve que c'était très bien d'en parler, et puis surtout de parler de lui parce que...
On parle du Cambodge aussi, on parle de plein d'origines, et ce qui est intéressant avec Bounaïmin, c'est que il n'a pas du tout la même, c'est ça qui est intéressant, il n'a pas du tout la même vision de la chose que son frère. C'est-à-dire que même quand on a une éducation similaire, avec des parents qui vous disent aussi la même chose, la même éducation par rapport à l'intégration, eh bien les enfants eux-mêmes ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui vont rejeter le prénom français, d'autres au contraire qui vont s'embarquer complètement dans l'imagerie populaire même de la France ou culturelle. C'est intéressant de voir qu'en fait c'est presque un choix en fait. L'identité, c'est mouvant. Et selon on voit bien, il y a des enfants qui vont se rapprocher de la religion de leurs parents quand ils sont à l'adolescence, puis après ils vont s'en écarter quand ils vont se marier. Il faut pas figer une identité.
Ce sera l'occasion de découvrir le parcours d'Alexis Michalik, le metteur en scène de théâtre.
Oui.
Et des frères Karabatic.
Oui, aussi, qui sont fiers de chanter la Marseillaise. Voilà.
Et puis de rappeler aussi que le Cambodge, la dictature communiste, ça fait 2 millions de morts parce qu'on a tendance de temps en temps à un peu oublier cette histoire aussi.
Et là, on va faire quoi avec l'Iran?
Bah pour l'instant, on fait pas grand chose.
Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'Ukraine? On a beau avoir des quotas. Non, mais on a beau avoir des quotas. C'est intéressant, c'est qu'il faut pas non plus oublier l'émotionnel. On a beau avoir des quotas et des politiques migratoires plus ou moins strictes. Et ça, c'est au législateur de choisir. Pour autant, quand il y a l'affect qui est touché, quand il y a l'émotionnel, quand il y a une guerre en Ukraine ou une guerre en Iran, une guerre civile en Iran, est-ce qu'on dit « Ah non, c'est bon, plus de migrants, démerdez-vous ». Je suis pas sûre.
Et puis il y aura la question de réfugiés climatiques aussi. Merci Karine Lemarchand, c'est ce soir à 21h10, 100 ans d'immigration, les nouveaux Français, merci d'être passé par les GG. Dans un instant, avec les grandes gueules, on change de sujet, on va regarder la France. La France est championne d'Europe. Championne d'Europe du vol de voiture.
Ah merde,
encore un titre. Cool. Allez, on est champion du monde des impôts, champion d'Europe des vols de voiture. À tout de suite avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les GG avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, Bruno Poncet et Joël Dagosséry. Avec vous au 32-16, tiens, pour parler de la France championne d'Europe du vol de voiture. C'est la question d'ailleurs, est-ce que vous-même vous avez peur pour votre véhicule
et j'ai peur pour ma chignole.
Vous avez pris des balles et t'as une mini toi.
T'as
aussi partie des voitures qui sont pas mal volées.
Ouais, enfin bon.
Le plus volé aujourd'hui en France, c'est la Clio, c'est la Toyota RAV4, c'est la Peugeot 208. Enfin, on est champion d'Europe du vol de bagnole.
Oui, plus de 125 000 véhicules ont été volés en France en 2025. La France reste le pays européen où on le vole le plus de véhicules, malgré quand même une baisse de 9% cette année, il faut s'en féliciter. Les véhicules les plus ciblés sont les SUV hybrides qui représentent près de 70% des vols. Alors, il y a une nouvelle tendance aussi, les vols de véhicules utilitaires et de loisirs qui augmentent de 30%. Alors c'est fou parce que plus on a des véhicules quand même protégés, ben plus les méthodes de vol sont devenues technologiques, hautement technologiques. Dans 9 cas sur 10, on hack votre voiture comme on craque un ordinateur, un smartphone. C'est ce que dit l'Observatoire des vols et de la récupération qui explique tout ça. Est-ce que vous avez peur de vous faire voler votre véhicule? Est-ce que vous y pensez?
Bruno?
Moi, si ça, alors si me pique ma chignole, moi j'en souhaite bien du courage, parce qu'elle boit autant d'huile qu'elle boit d'essence. Donc les mecs...
Laisse tomber la gaffe.
Ah ouais, ma bagnole, laisse tomber. Après, moi, ma voiture, c'est une vieille voiture, pas sûr que ça intéresse. Mais bon, le fait que ce soit la Clio la plus volée, ça fait 30 ans que ça dure. Depuis que la Clio est sortie, c'est la voiture la plus volée. À un moment donné, t'avais des Golf. T'avais des Golf. En fait, sur ces voitures faciles à voler. C'est sûr que maintenant, t'as des systèmes pour voler les voitures un peu plus complexes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, tu volais une voiture avec un cintre.
Oui.
Un cintre en métal, tu passais dans la tringlerie, tu retirais le truc, tu ouvrais la voiture, Et après, il fallait trouver deux fils. Mais c'est sûr que qu'on soit champion d'Europe, ça m'étonne pas. Je crois qu'on a un des parcs de voitures les plus importants. Et puis surtout,
il y a la position géographique aussi de la France en Europe, accès à des ports européens, que ce soit aux Pays-Bas, en Espagne ou en Belgique, parce qu'une fois que la voiture est volée, hop, on la met dans un conteneur et elle part très loin, et donc on ne la récupère plus.
Après, t'as aussi un autre marché, c'est les voitures de luxe en France qui sont volées et des fois après qui vont dans des pays de l'Est, Roumanie, tout ça, où les voitures sont même Ukraine à une époque.
Ou en Afrique.
En Afrique, c'est pas trop les voitures de luxe, c'est plutôt les petites.
Mais c'est l'île de France qui est la région la plus touchée.
C'est sûr, de toute façon, c'est là où les voitures dorment le plus dehors, en fait. C'est ça, et d'ailleurs, tu vois bien que les assurances, quand j'ai assuré ma voiture, quand je leur ai dit que j'avais un parking et puis que j'avais un garage, ils m'ont défalqué un truc. Sinon, quand ta voiture est garée dehors, après, c'est là que tu te fais allumer aussi sur les assurances en région parisienne. Mais sûr que la région parisienne, les voitures dorment dehors. Les mecs,
c'est la Clio 4 qui est la plus volée. Suivi ensuite, réfléchissez lorsque vous achetez une voiture, de la Peugeot 3008, ensuite la Peugeot 308, la Renault Mégane 4 également est appréciée des voleurs, et puis il y a la Toyota RAV 4 qui est la plus touchée, puis la Lexus également, la RAV 4. Voilà.
Lexus, c'est la marque luxe de Toyota. Et Jean-Loup Bonamy.
Hors antenne, Olivier Truchot m'a dit que je n'avais pas été très grande gueule et que je m'étais dégonflé face à la belle Karine Lemarchand. Alors allons-y.
Tu étais ébloui.
Évidemment. Je le confesse.
Tu en as oublié ton caractère grande gueule.
Alors, évidemment. Alors là, on va rentrer dans le sujet. J'entends le même Olivier Truchot qui nous parle du réseau portuaire ou de la situation géographique. Tout ça est exact, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais quand même, le problème, c'est que la France est devenue le mouton noir de l'Europe et que c'est vraiment l'homme malade de l'Europe, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la délinquance. Regarde, depuis le 1er janvier 2026, tous les deux jours, en moyenne, une fois tous les deux jours, tu as une affaire d'enlèvement liée aux crypto-monnaies. Et tu vois ce qui s'est passé à Grenoble avec la grenade. Et tu ne peux pas comprendre le vol de voiture si tu ne l'intègres pas à ce contexte global. Le taux d'homicide baisse dans tous les pays d'Europe, sauf en France où il explose. Excuse-moi, il y a quand même un truc. Eh ben, le vol de voiture, c'est pareil. Et en plus, non seulement les voitures, elles sont exportées via les grands ports comme Anvers ou Rotterdam, elles sont exportées en Europe de l'Est ou en Afrique, mais en plus, il y a une nouvelle tendance qui consiste à les blanchir, à les maquiller sur place, changer les numéros, les procédés d'identification, et en fait les revendre en France.
Comme dans les sous-doués, voilà, rappelle-toi le typique immobilette, il a repeigné, il la revendait.
Voilà, donc, mais excuse-moi de te le dire, et encore une fois,
voiture, bah oui,
encore une fois, je le répète, attention. Le ministre de l'Intérieur est dans le déni.
C'est
dans
la tiers-mondisation de notre
bien
pays.
Bien sûr, dans le
pourquoi
tout va très
déni,
bien.
Monsieur Nunez, il était là ce matin.
Tout va très bien, madame la marquise.
Ah bah voilà. T'es plus dur avec Nunez qu'avec le marchand.
Ah oui, je suis plus dur avec monsieur Nunez, il n'y a peut-être pas les mêmes arguments. Donc. Donc, voilà, oui, mais surtout, Karine Le Marchand n'est pas en charge de notre sécurité.
Non.
Que monsieur Nunez, si, et s'il veut régler le problème, il devrait commencer par reconnaître publiquement qu'il y a un problème, ce qu'il sait très bien et ce que pourtant il nie. Voilà, c'est ça le problème. C'est que, excuse-moi de le dire, la France est un coupe-gorge pour toi comme pour ta bagnole.
Non, c'est pas ça un coupe-gorge.
Bah non, t'as jamais. Oui.
Ah bah, ah moi j'aimerais bien voir si t'arrives à l'improviste au moment où les mecs sont en train de. Excuse-moi, de chourarer ta caisse.
Bien sûr,
mais il n'y aura pas violence parce que les chiffres de violence contre les personnes augmentent.
125 000 par an, c'est quand même un chiffre important.
Voilà. Ramener un parc de véhicules de combien?
Bah, il y a 40 millions de,
ouais, 40 millions d'automobilistes.
Ouais. Et si jamais vous tombez sur un type,
moi ça m'est arrivé de me faire voler ma bagnole. Tu te sens con? Effectivement, ça arrive, il te reste l'enjoliveur. Tu dis, voilà. Putain, j'étais garé là. Donc, effectivement, c'est embêtant.
Non, t'as mais surtout,
envie,
c'est pas ça.
Et derrière, tu sais que, grosso modo, ça n'aboutit pas. On l'a jamais retrouvé.
T'as trouvé des voleurs qui piquent des picantos. Non, mais c'est quand même pas facile.
Du côté embêtant.
C'était avant d'avoir mon cheval cabré noir.
Non, mais au côté du côté embêtant, c'est que ça fait, flamber l'assurance auto. On va pas s'étonner qu'on paye de
plus en plus cher les
assurances auto. Non, non, mais bien évidemment. Mais non, mais je réagissais au fait qu'ils disent que c'est un coupe-gorge.
Non, mais ils s'enflamment toujours.
Non, mais
c'est plus facile de s'enflammer sur les chignoles que sur Karine.
On te vole ta voiture et après, en plus, une fois que t'en as racheté une, tu dois payer une prime d'assurance plus élevée. T'es deux fois perdant, c'est Nicolas qui paye.
Joël Dagosséry.
Bah moi, j'ai pas de voiture, donc.
J'ai réglé le problème.
Mais quand même, il faut quand même se demander si je devais en avoir une.
Ah putain, oui.
J'imagine que je chercherais un parking à louer souterrain. Et donc, c'est un coût. Donc, quelque part, cette insécurité en France commence à avoir un coût pour notre budget. Et toi, tu faisais allusion à la crypto-monnaie, etc. Enfin, les chefs d'entreprise dans la crypto-monnaie, ils ont une sécurité privée. Moi, j'intervenais la semaine dernière sur la Nuit de la Liberté et il y avait Eric Larchevêque qui est intervenu juste avant moi et qui expliquait, qu'il doit avoir une sécurité personnelle, en fait. C'est un chef d'entreprise. Ah, c'est pas la DZN Mafia ou je ne sais quoi. Il a une sécurité personnelle pour sa femme. Il fait attention à ses déplacements. Il change d'itinéraire. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faudrait quand même que l'État, enfin, comprenne que ça, c'est un coût psychologique. C'est un vrai coût psychologique.
Et financier.
Et puis ça commence à avoir un coût financier.
Mais un coût financier, voilà. Parce que tout le monde se sécurise.
La sécurité.
Pardon, mais on n'a jamais mis autant de caméras chez soi, des caméras. Enfin, c'est un business d'ailleurs, hein. Des alarmes en tout genre, des digicodes et autres. Enfin, pardon.
Les assurances ne veulent plus assurer les communes à cause des émeutes.
Séverine,
pardon,
bonjour,
c'est pas comme ça.
Séverine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, bonjour à tous. Séverine. Bonjour. Est-ce que vous avez peur de vous faire voler votre voiture ou vos voitures avec votre époux? Dites-moi,
alors,
je sais pas.
Disons que ça m'a fait rire parce que quand j'ai eu la personne au standard, il m'a demandé si j'étais parano. Je ne suis pas parano, je dirais que je suis plutôt prudente en fait. Donc j'ai une Clio, et oui, voilà, et j'ai une propre voiture, une BM qui a un système de sécurité qui est un petit peu plus évolué. Mais par contre, j'ai deux blocs volants. J'ai un bloc volant sur chaque voiture que j'aime absolument. Ouais,
c'est quoi, ce sont les tiges en métal, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et en fait, il n'y a qu'un endroit où je ne le mets pas, c'est à mon travail parce qu'on a un parking sécurisé. Mais sinon, que ce soit n'importe où, quand je fais mes courses, je mets le bloc volant. Alors, je dis pas que c'est, voilà, qu'ils arriveront pas à l'apprendre, mais je pense que ça les circule un petit peu.
Ça les embête.
Et deuxième chose que j'ai entendue par la gendarmerie que je fais maintenant, je ne mets absolument plus mes clés électroniques derrière la porte. Je les mets loin dans mon salon, dans un petit meuble, parce qu'apparemment, ils ont des appareils qui passent derrière la porte et ça détecte, les systèmes.
C'est-à-dire, ce sont les gendarmes qui vous l'ont conseillé.
C'est des conseils de la gendarmerie. En fait, il faut absolument pas mettre ces clés, donc les petits boîtiers électroniques, derrière la porte. Parce qu'en fait, ils ont, ceux qui volent les voitures, ont un espèce de petit boîtier qui passe derrière la porte d'entrée. Ça détecte le système électronique et ça fait démarrer ça débloque la voiture. Donc maintenant, les clés, je les mets dans le fond, à l'opposé de la porte. En fait. Donc je ne sais pas si je suis parano, mais en tout cas, je suis prudente.
Voilà, c'est de la prudence.
On a quand même encore un crédit sur une des deux voitures. Et vu le temps que mettent les assurances, et très sincèrement, je n'ai absolument pas confiance envers les assurances. Donc je préfère être prudente ou parano, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça me rassure.
Merci Séverine de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée côté d'Orléans. À bientôt dans les
sujets. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Jordan Bardella est à 36% dans les sondages. C'est un mystère.
On a posé la question, avez-vous peur pour votre véhicule, oui ou non? On va voir ce que vous avez dit. Oui, clairement, quasiment 70%. Dans un instant, vous allez continuer le débat et la discussion avec qui? Devinez, avec Estelle Denis pour Estelle Midi. Et nous, on se retrouve demain, bien évidemment, à 9h avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud, Abel Boyi.